Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Ève Harel, est avec nous en studio. Comment ça va?
Ça va bien, merci.
T'as l'air en pleine forme.
Bien sûr.
Pas que tu l'aies pas. Je sais pas, il y a quelque chose de plus. Je vais le dire, tu rayonnes.
Ben merci, ben, c'est bien
ça,
gentil.
Ça fait plaisir. Arrête de la flamme.
Non, mais c'est... Non!
T'as raison, t'es pas dans le champ du tout.
C'est pas le contraire habituellement, mais il y a comme quelque chose de plus. T'as de l'air en pleine forme.
Vendredi, on approche le week-end, le beau soleil.
Ben oui.
T'as-tu des plans pour la fin de semaine?
Non.
Non?
Non.
C'est peut-être
fin de semaine,
aussi.
Relax, ça doit être
quoi,
ça.
C'est quoi le meilleur plan? C'est pas de plan.
Oh,
puis là, t'as pas de pression.
Exactement.
Ouais. C'est peut-être aussi que ça brasse tellement au niveau politique,
ben
que ce soit municipal, provincial, fédéral, là, ça bouge énormément.
On n'a pas le temps de planifier la fin de semaine. On est occupé dans le quotidien qui est bien chargé.
Tu trouves, hein? Oui. Jacinthe-Ève, t'as entendu le maire Marchand avec l'équipe du retour aussi à Boulevard hier après-midi. T'as pensé quoi de cette jasette-là?
Bien, c'est une longue entrevue qui permettait là, d'aller en profondeur. Les animateurs proposaient des questionnements légitimes, rapportés souvent par leur expérience de lire les commentaires, de jaser avec les gens. Donc, en radio, on est proche du monde et puis ça a permis d'amener des questionnements intéressants. Cela étant dit, le message de Bruno Marchand est très axé sur... les nouveaux services qu'il prévoit bien, ou que le RTC va développer suite aux entrées d'argent que va générer la nouvelle taxe sur l'immatriculation. Il reste quand même certaines questions en suspens parce qu'il reste que le réseau de transport de la capitale a un déficit prévu pour 2024 de 30 millions de dollars qui est absorbé pour cette année de façon... exceptionnel, je dirais, hein, par le gouvernement du Québec qui a dit qu'il va falloir que vous vous débrouillez. Là, on va l'absorber pour cette année, mais trouver d'autres solutions. Donc, il reste que ce 60 $-là de plus par immatriculation va aussi servir à éponger les déficits, va aussi servir à éponger les dépenses du réseau de transport de la capitale. Alors, Bruno Marchand a demandé au réseau de transport de la capitale de développer des nouveaux services puis s'assurer de décongestionner pour que le citoyen en ait plus pour son argent ou voit que ça a donné quelque chose, ce 60 $-là. Mais il reste qu'il y a une projection des coûts versus projection des entrées de ce 60 $-là. T'sais, on estime à combien ce montant total-là et combien va aller pour rembourser le déficit prévu et combien va aller dans le développement des services. On est quand même dans les grandes lignes floues, je dirais. Là.
Clairement, parce qu'on lui a posé la question en conférence de presse. C'est quoi la proportion qui va au déficit? C'est quoi la proportion qui va au nouveau service? Puis il dit, je ne l'ai pas calculé encore. Puis on lui a posé la question, mais ça coûte ce nouveau service-là? Je ne le sais pas. Fait que tu sais... C'est mince comme annonce.
Bien, c'est une campagne de com'. C'est de la communication puis de la politique. Et malheureusement, on est dans une ère de ça. On est dans une ère où il y a beaucoup plus de calculs de communication puis de calculs politiques que de calculs chiffrés.
Ouais, clairement.
On fait des messages puis on dit « inquiétez-vous pas, on vous taxe plus », mais on ajoute des frais à vos immatriculations, mais inquiétez-vous pas, on va décongestionner le Nord. Mais décongestionner où dans le Nord? Décongestionner à quelle fréquence?
Ouais.
À quel endroit, sur quel circuit, avec combien d'autobus? Est-ce que ça va nécessiter l'achat de nouveaux autobus et que finalement...
Ben, c'est ça.
Finalement, c'est... Parce que... Puis les achats d'autobus, est-ce que ça sera des autobus conventionnels à moteur thermique qui coûtent la moitié du prix d'un autobus électrique ou vous allez vous lancer dans l'autobus électrique qui coûte le double chaque autobus? Les hybrides sont quelque part entre les deux. Tout ça, on n'a pas ces détails-là.
Tellement de questions... Pas beaucoup de réponses.
Exactement.
Hein?
Oui, puis d'autant plus qu'on dit 10 à 15 % d'augmentation d'achalandage, mais tu sais, quand je regarde les grands projets du RTC, on a frappé au maximum 4 % que le 803. Fait que tu sais, j'ai de la misère à croire qu'on va se rendre à 15 % d'augmentation d'achalandage.
Ben oui, exactement. Il n'y a pas de sondages qui ont été faits auprès de la population par quartier pour dire OK, qu'est-ce que vous auriez besoin? Et on manque de données, puis là, on lance des grandes lignes comme ça. On sait que c'est congestionné dans le Nord. On sait qu'il y a des lignes mal desservies. Mais en même temps, les projections avec des chiffres, combien ça coûte, combien d'usagers on va avoir de plus, ça, on ne le sait pas. Puis on pense que parce que le service va être meilleur, que les gens vont, euh, qu'une partie des gens vont transiter vers l'autobus, mais on oublie que les mères, les pères de famille qui doivent faire des arrêts au CPE, à l'école, ici et ça, il y a des gens pour qui ça ne sera jamais possible, même si le service passe aux 2 minutes en avant de chez nous, à toutes les fréquences, pour aller n'importe où. Si j'ai des bébés à embarquer, si j'ai de l'épicerie à faire, puis c'est une épicerie pour la famille, puis ce ne sera pas juste un petit sac, mais ça va être plein de sacs. Et il y a plein de considérants qui
font
en sorte que...
Tu ne prendras pas plus le bus,
non,
là.
Hein?
Comment tu as trouvé le maire, Jacinthe? L'as-tu trouvé... Puis, tu sais, peut-être c'est juste une idée que je me fais, mais dans la discussion d'hier, brûlé, tanné, fatigué, au bout du rouleau, comment tu as trouvé le ton du maire puis son...
Ben, oui, je l'ai trouvé tanné. Je l'ai trouvé fatigué ou irrité ou usé, peut-être.
Il y a beaucoup de mots, hein?
Puis avec raison, parce qu'il l'a pas facile. Il l'a pas facile, mais en même temps, il choisit de pas l'avoir facile. Il marche à contre-courant de la volonté populaire, je dirais, d'une majorité des électeurs. Il marche à contre-courant des paliers gouvernement ou de ses alliés ou des alliés qu'il devrait avoir en politique provinciale. Il marche à contre-courant. Il y a pas beaucoup d'alliés. Il y a plus... Donc, quand on s'entête à marcher à contre-courant, parce qu'on pense qu'on a raison à tout prix ou on veut avoir raison à tout prix, ben c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus difficile.
Mais y est-tu rendu à un point où il voit vers où les choses s'en vont puis il se dit, « Hey, moi, de toute façon, je serai pas réélu. Fuck it, je passe mon agenda, je passe ce que je veux passer, puis à un moment donné, ben je partirai, je laisserai ma place à un autre, mais au moins j'aurais réussi à faire passer une couple d'affaires que j'avais envie de passer. » Il peut-tu être rendu là?
Peut-être, mais il semble quand même investi très fortement par une mission qui nous dépasse tous, puis qu'on comprend peut-être pas, nous, la volonté populaire. Et là, je dis nous parce que je fais partie de ceux qui sont quand même critiques face à son administration et ses décisions. Alors, peut-être qu'il se dit, puis il le dit souvent, de toute façon, qu'est-ce qui est bien pour vous, vous le comprenez peut-être pas, mais vous allez le comprendre plus tard. Quand on est investi d'une mission qui nous dépasse puis qui dépasse la volonté populaire, ben oui, peut-être que ces élections, il n'y a pas ça en tête. En même temps, on reproche souvent aux politiciens d'être là pour de mettre en place des mesures dans un but exclusivement électoraliste. On ne pourra jamais l'accuser de ça.
Ça, c'est clair.
Donc, il est fidèle à ses valeurs. Le problème, peut-être, c'est qu'il n'a pas annoncé ces valeurs-là lors de sa campagne électorale. Mm-hmm. On n'a jamais pensé qu'on votait pour un maire qui était dans cette lignée-là très dure de je sais ce qui est bon pour vous et malgré les grandes lignes des orientations de mes électeurs, je vais quand même vous montrer le droit chemin.
À Québec, il y a une dualité. T'es pro ou t'es contre le transport en commun? T'es pro ou t'es contre la voiture? Puis là, le maire a bien beau me dire la guerre à la congestion. Là, il y a cette dualité-là. Est-ce que le maire a avantage à se coller sur le troisième lien? Parce que pour moi, le troisième lien, c'est un moyen de combattre la congestion. T'sais, si tu prends tout le monde qui part de l'Est en Ouest puis tes gardes en Est, bien nécessairement, il va y avoir moins de monde sur Félix Leclerc. Là, ça n'a pas besoin d'un grand calcul mathématique pour comprendre ça.
Ben oui, puis certainement, parce que vous regarderez la carte de Edmonton en Alberta. Si vous regardez la carte là, sur Google Maps, tapez Edmonton, allez voir, là, vous allez voir que c'est une ville qui est encerclée par... qui est bien desservie par un réseau de routes, d'autoroutes, qui encercle la ville. On appelle ça des voies périphériques. Il y en a... Les villes où ça circule bien ont des voies périphériques.
Ah, c'est bien beau!
Ouais.
Mais c'est spécial! J'ai jamais vu ça!
C'est accessible!
Ça encercle vraiment!
Donc, le centre-ville devient accessible de tous les côtés, de tous les secteurs. On ajoute une façon pour les automobilistes, les autobus aussi, les taxis, les camions. Parce que là, les routes, ils servent aux taxis, ils servent aux camions, ils servent au transport des marchandises, aux autobus aussi. C'est pas juste pour les voitures. Mais ça amène une fluidité qui est importante d'avoir. Et effectivement, ici, le fait qu'on n'a pas de lien à l'Est fait en sorte qu'on crée un entonnoir de circulation, un entonnoir vers les ponts, les deux ponts qui sont un à côté de l'autre, mais on crée aussi un entonnoir vers les voies ouest, est, est-ouest, mm-hmm. pour rentrer au centre-ville ou pour sortir de Québec puis s'en aller dans l'est. Donc, nécessairement, ça apporte une congestion sur le boulevard Charest, sur l'autoroute de la capitale, et ces deux voies-là sont constamment congestionnées. De toute façon, Charest, rendu au centre-ville de Québec, on n'est plus sur une autoroute du tout, là. Donc, ça fait converger la congestion dans des voies bien précises et il manque de fluidité. Donc, c'est sûr qu'il y aurait tout intérêt à se sortir de son dogmatisme de dire « ajouter un lien, c'est valoriser le... » Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que ça va valoriser l'étalement urbain. Hein? Mais l'étalement urbain, il existe déjà. Il y a déjà du monde, l'autre bord du fleuve.
c'est déjà là.
C'est pas des champs de patates. Là. Ouais. Il y a du monde qui habite là. Il y a du monde qui vient de travailler ici. Et bien sûr, il y a toujours un risque que les gens traversent à Lévis pour aller vivre là. Mais ils vont venir travailler à Québec. On est légalement deux villes, mais on est géographiquement une région.
Ouais, c'est vrai.
Hein? Puis on habite, on vit, nos enfants vont à l'école, il y a des familles reconstituées, papa, maman, il y en a un qui est l'autre bord du fleuve, puis ça crée des situations où est-ce que le transport en auto est souvent nécessaire, et si on ajoutait un lien à l'est, bien sûr que ça ferait du bien à la congestion, mais ça ferait du bien aussi à Bruno Marchand de démontrer qu'il comprend très bien que là, en ce moment, on est enclavé. Il y a des automobilistes et des camionneurs qui sont enclavés, puis les camionneurs qui partent de toute la rive sud et qui doivent s'en aller au Saguenay-Lac-Saint-Jean, sur la côte nord, ils n'ont pas le choix. Ils traversent les deux, la seule voie autoroutière, qui est le pont Pierre-Laporte. Je parle des camionneurs.
De toute façon, l'autre est tout le temps fermé aussi.
Ouais. Et si on dit on va déplacer la congestion, moi, je ne comprends pas ça. Là, on a eu, à un moment donné, le contre-argument. Ben oui, mais on va déplacer la congestion. On va la fractionner.
Ben
on la déplace pas, on la fractionne.
Ouais. C'est clair.
Ceux qui vont continuer d'avoir besoin de prendre le pont de Québec ou le pont Pierre-Laporte vont le prendre.
Ils vont le faire, oui.
Et en ce qui a trait au camionnage lourd, par exemple, il y en a une partie, une proportion qui va s'en aller à l'est, mais on fractionne, c'est pas vrai qu'on le déplace. Et si, éventuellement, il y a besoin de travaux pour venir lier le lien à l'est, parce que là, on parle que déjà la capitale, déjà l'autoroute du Frey-Montmorency est congestionnée. Bon, on les fera, les travaux, mais ça permettra de désengorger parce que c'est nécessaire. Il faut penser aux autres régions aussi. Et là, c'est là où il faut travailler en collaboration. Puis avec une certaine auteure, Bruno Marchand va bientôt dans un voyage en Europe. Il va aller en Suisse, en France, en Espagne, selon ce qui était prévu. Il va voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Il y a une conscience de ailleurs. Bien, ailleurs, c'est aussi autour de Québec. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour qu'autour de Québec, qu'est-ce qu'on fait pour les régions autour de chez nous pour s'assurer que, finalement, on travaille tous dans le même sens à améliorer la fluidité?
Ouais. Jacinthe, on va jouer un jeu de rôle. T'es Sam Amman. Quand est-ce que tu embarques officiellement dans la game?
Ah ouais, hein?
Ça devrait-tu déjà être fait?
Bien, ça commence à chauffer, là.
Ouais, hein?
Ouais. On commence... Mais la stratégie est bonne si y a l'intention de se lancer, parce que là, on l'attend de plus en plus. Mm-hmm. On a hâte de plus en plus, parce qu'on veut entendre quelqu'un débattre directement des enjeux qui nous touchent à Québec. On se dit, ah, ça m'amade, ça va être intéressant de l'entendre. Alors oui, je pense que la stratégie est bonne d'attendre, parce qu'on fait attendre la demande. La demande s'accentue. Les citoyens ont soif d'avoir un nouveau discours, ont soif d'avoir une nouvelle image. Mais peut-être plus après Noël, moi, je dirais, parce que quand même, faire un an de pré-campagne avec le maire Bruno Marchand, ça peut être assez essoufflant aussi. Mais je dirais qu'après Noël, là, je pense bien qu'on va peut-être avoir nos belles surprises.
Puis comme tu dis, anyway, en ce moment, il n'y a pas nécessairement besoin de l'annoncer.
Ouais.
Le nom circule, on l'attend, entre guillemets, fait que lui, il n'y a pas besoin, il y a le beau jeu. Là.
Ouais. Puis dites-vous que la minute où il l'annonce, les questions vont déballer, là, des journalistes, puis de Bruno Marchand et de son équipe.
Tu fais quoi avec la taxe à l'immatriculation? Tu sais quoi avec le tramway? Tu sais quoi avec le troisième lien?
C'est peut-être ça aussi.
Il y a une équipe à aller se chercher. Et là, ben ça, c'est un peu plus long.
Mm-hmm. On change de registre. On y va dans le provincial avec Youri Chassin qui a claqué la porte de façon spectaculaire et lettre publique dans les médias. Puis il a ramassé à CAQ pas à peu près. Puis là, on parle d'arrivée. Il va-t-il arriver au Parti conservateur du Québec? En tout cas, Éric Duhaime, il ouvre la porte puis les bras grands ouverts.
Bien, Youri Chassin est très... Sa sortie hier démontre que c'est un homme qui est très fidèle à ses principes et à ses valeurs. Mm-hmm. Hein, parce que pour claquer la porte d'un parti politique qui est au pouvoir, avec toutes les perspectives personnelles qu'on peut y gagner quand on est au pouvoir, parce que de devenir indépendant, il s'est fermé des portes à une visibilité, à une influence. Bon, il va avoir un autre type d'influence, mais il reste que ça démontre qu'il est fidèle à ses principes, fidèle à ses valeurs. Alors, un homme qui a cette loyauté-là, cette intégrité-là, bien, il a aussi le respect des institutions démocratiques puis le respect de ses électeurs. Et quand tu as été élu sous une bannière politique, lui a dit « Je vais compléter mon mandat parce que c'est un contrat que j'ai avec mes électeurs pour 4 ans, mais le contrat qu'il y a eu avec les électeurs, c'était aussi avec la coalition Avenir Québec. Ce qu'il disait hier, c'est qu'il ne changera pas de parti parce qu'il y a ce respect-là de ses électeurs puis des institutions démocratiques. Alors, je ne pense pas qu'il va faire ce changement de parti politique-là. Ce serait, même s'il n'a pas utilisé ces mots-là, moi, je vais les utiliser, mais ce serait un peu trahir ses électeurs. En même temps, il honore son contrat. Et bien sûr, ben il va être bien positionné pour mettre au défi le gouvernement de la coalition Avenir Québec, ce qu'il essayait de faire de l'interne, mais là, il va pouvoir le faire de l'externe. Et surtout, il vient de s'enlever les menottes, là.
Ouais.
Parce que là, il va être capable de parler aux médias puis dire « ça n'a pas de bon sens, voici ce que je pense, voici ce qu'on aurait pu faire, voici ce qu'on pourrait faire ». Donc, ces menottes-là qui viennent de s'enlever, les menottes idéologiques ou les menottes partisanes, viennent de lui donner une énorme liberté. Et ça, je pense qu'il va beaucoup s'amuser parce que quand on est passionné de politique puis quand on est là pour les bonnes raisons, pour le changement, parce que c'était le parti du changement, la coalition Avenir Québec. Quand on est là pour le changement, bien, on ne veut pas être lié par des lignes de parti, puis on ne veut pas être lié surtout par un chemin qu'on se rend compte qui s'éloigne de l'objectif. Et le grand objectif de la coalition Avenir Québec, quand elle s'est fait élire en 2018, c'était justement d'avoir une saine gestion des finances publiques, d'améliorer les services publics et de s'assurer que l'État n'engraisse pas au détriment de la qualité des services. Puis c'est exactement ça qui s'est arrivé. Donc, Youri Chassin s'est dit, on s'éloigne complètement des objectifs, on s'éloigne complètement de ce qu'on avait promis, on s'éloigne de notre ADN. Moi, je vais revenir vers notre ADN, puisque je ne suis pas capable d'avoir l'influence que je voudrais avoir à l'intérieur du parti. Je vous parie que ce n'est pas le dernier départ.
J'allais te demander, pas facile pour la CAQ en ce moment. Est-ce que ça se calme, selon toi, ou est-ce que la valve est ouverte? Fait que...
Vous savez, Youri Chassin et contribue à la coalition Avenir Québec depuis sa fondation en 2011. Ce n'est pas n'importe qui vient de partir. D'une part, c'est un économiste. Alors, c'est un économiste qui a très à cœur les finances publiques, l'équité intergénérationnelle. C'est important pour lui. Et il contribue à cette formation politique-là depuis 2011, qu'il essaie d'apporter, puis d'apporter des idées et qui a l'écoute aussi de ce parti-là. Alors, c'est un symbole très, très fort. C'est plus qu'un symbole. C'est vraiment une démonstration pour nous que la CAQ est en train de se fracturer. Et oui, je pense qu'il y aura d'autres départs. Certainement que ça fait réfléchir encore plus fort certains députés/ministres.
Mm-hmm.
Bien sûr, quand on quitte la porte d'un parti, si on est ministre, on perd la moitié de son salaire, la moitié de ses avantages. Si on est à la tête de commissions parlementaires, on a des primes qui s'ajoutent à notre salaire. Donc, il y a des avantages matériels quand on est père ou mère de famille, on est ministre. Il y a un gros calcul qui se fait de la part de certaines personnes en ce moment sur est-ce que je reste fidèle à mes valeurs, à mes principes, mais je perds mon influence, je perds mon titre, mon CV.
Quel ministre pourrait quitter?
Bonne question, ça, Max.
Ben, y en a qui avaient mis leur siège en jeu pour des enjeux importants pour la ville de Québec. Alors, on verra.
Jacinthe Eve Harel, c'est notre chroniqueuse politique. C'est toujours un plaisir. On adore jaser politique avec toi. Merci pour ça ce matin.
Merci.
Puis je te souhaite un magnifique week-end pas de plein.
Ben oui, merci.
Parce que des fois, là, c'est vrai que c'est des bonnes fins de semaine.
Oui, merci.
Allez.
On s'arrête 2-3.